bonsoir ou bonjour au choix. Bienvenue sur Radio Courtoisie. Merci, merci d'y être. Là-bas, de l'autre côté du micro, quelle chance de pouvoir ici régulièrement vous parler de choses vibrantes, de choses excitantes, d'encontrer des gens passionnés qui abolissent l'ennui, comme chantait il y a longtemps Julien Clerc. Je crois que c'est notre 12e rendez-vous depuis octobre, notre 12e ascension vers les neiges du Kilimandjaro.
Le Kilimandjaro, que les neiges revêtent d'un blanc manteau, est un volcan haut de 5893 mètres. On prétend que c'est la plus haute montagne de l'Afrique. Sur le flanc ouest, près du sommet, se trouve la carcasse congelée et desséchée d'un léopard. Personne n'a su expliquer ce que le léopard cherchait à cette altitude.
Les neiges du Kilimandjaro, une nouvelle d'Hemingway, puis un film dont c'était un extrait avec Ava Gardner, Gregory Peck, une belle époque du cinéma. Pourquoi cette phrase? Que veut-elle symboliser? Le fait que souvent, nous tentons l'inaccessible au péril de notre vie, c'est ce que fait ce léopard. Parfois c'est plus métaphorique, mais en tout cas, nous essayons toujours d'aller plus haut, de tenter des choses. Hubert Boccara est notre invité, il est libraire, il a eu plusieurs vies. Quel serait le sommet que vous auriez voulu atteindre? Ou y en a-t-il d'autres encore?
Alors moi j'ai déjà atteint un sommet. J'ai déjà atteint un sommet, c'est que j'avais comme projet, mais il y a longtemps déjà, d'aller vivre avec des Indiens sur l'altiplano bolivien.
Oh, ouais. Belle expérience.
Belle expérience, j'ai vécu de nombreux mois avec des Indiens Aymara en Bolivie.
Ah oui, donc j'imagine que c'était quand ça?
C'était en 70.
Ah oui, il y a longtemps.
Vieille histoire.
Plusieurs mois.
Ouais, plusieurs mois avec 4000 mètres d'altitude.
Vous respiriez bien?
Pas toujours.
C'est le principe du sommet, c'est pas toujours facile.
Voilà.
Alors, mais c'est beau.
Fallait faire comme eux, fallait mâcher des feuilles de coca.
La coca, bien sûr. Ouais. En octobre, nous avons reçu ici Patrick Chauvel, photographe de guerre, cinéaste, qui mène depuis plus de 50 ans une vie incroyable d'aventures et de risques. Parmi ses maîtres, un personnage absolument prodigieux, aviateur et académicien, journaliste et romancier, infatigable bourlingueur et auteur prolifique, noctambule aussi. Pour moi, un des auteurs majeurs du XXe siècle à qui nous intéressons aujourd'hui, Joseph Kessel et Hubert Boccara, vous avez sur nous tous, et je suis très jaloux de ça, un avantage énorme, vous avez été l'ami de Jeff, comme on le surnommait.
De Jeff, absolument.
Avant de raconter les circonstances et de votre rencontre, qui ne sont pas banales du tout, je voudrais qu'on écoute un tout petit peu Joseph Kessel nous définir au fond un peu ce qu'il est.
L'exigence, c'est une seconde nature, sauf quand il y a une raison majeure comme... le besoin, ça, je vous dis, ça m'est arrivé deux fois dans la vie, c'est tout. D'écrire un livre qui demande du temps, quand je ne voyage pas pendant 3 ou 4 mois, je me sens mal à l'aise. Je ne sais pas d'abord pourquoi, je ne m'en rends pas compte. D'un coup, je me sens mal à l'aise, mal dans ma peau. Et c'est alors que je m'aperçois qu'il y a 3, 4, 5 mois que je n'ai pas bougé et il faut que je parte.
Et il faut que je parte. Il est parti toute sa vie, des reportages partout. Irlande, Afghanistan, Birmanie, je le dis dans le désordre, l'Éthiopie, partout, partout, partout.
Alors, à 20 ans, il avait déjà fait 2 fois le tour du monde.
C'est ça, c'est fou. Ouais. Mais quand vous l'avez connu, c'était un peu la fin de cette grande période de voyage.
Alors, quand je l'ai connu, j'avais 16 ans, lui en avait 70.
Racontez-nous comment vous l'avez connu, c'est une histoire incroyable.
Alors, l'histoire, si je dois commencer, enfin, la genèse de cette histoire, c'est un jour où j'étais avec ma mère au marché, il y avait dans le marché, il y avait un bouquiniste. Il y avait un étal avec des caisses de livres et des livres posés comme ça. Là. Et il y en a un qui a attiré mon attention. Alors j'avais 12 ans et quelques mois quoi, là, à ce moment-là. Il y a un livre qui attire mon attention, non pas pour l'auteur que je ne connaissais pas encore.
J'imagine.
Mais parce que la couverture était joliment illustrée.
Et le titre?
L'équipage.
Ah, le fameux.
Le fameux. Son deuxième titre dans la chronologie. Et donc je demande à ma mère si je peux acheter ce livre. Alors à l'époque, c'était... 50 centimes de francs, ce qui n'est pas grand-chose.
Non, pas grand-chose.
Voilà. Voilà. Et donc, le livre m'a plu tout de suite. Je l'ai lu en un temps record. Je suis retourné voir le bouquiniste pour qu'il m'en fournisse d'autres. Et puis, au fil du temps, je commençais à chercher moi-même. J'arrive à un âge où je pouvais aller rôder le long des quais chez les bouquinistes et je trouvais des livres. Voilà. À 16 ans et des bricoles, Je décide de rencontrer ce personnage. Donc on se moque beaucoup de moi autour de
mais
moi.
Mais non, pourquoi il faut... La chance sourit aux audacieux.
Alors j'avais quand même lu à peu près les 2/3 de l'œuvre, c'est-à-dire une soixantaine de
oui,
titres.
Oui, parce qu'il y a 80 titres, je crois. Ou
88.
Pas. 88 titres, ouais, Joseph Kessel.
Ouais.
C'est prolifique.
Donc à ce moment-là, moi j'avais
alors
lu...
Alors comment faire?
environ une soixantaine de titres.
Vous avez envie de le rencontrer, mais comment faire ?
Comment faire ? Donc, s'il fallait aller à sa rencontre dans les endroits qu'il fréquentait, ça ne peut pas fonctionner, parce qu'on embête les gens.
Bien sûr.
Au restaurant, « Bonsoir, monsieur, je viens vous voir, parce que j'aime vos livres. »
Il était académicien, il me semble, à l'époque,
ouais.
Déjà, hein, bien sûr.
Il est arrivé en 62 à l'académie. Et donc, j'ai décidé de lui écrire. Alors, j'ai écrit, mais pas une lettre, parce que dans une lettre, on ne dit pas grand-chose. Dans une lettre de 10 pages, on dit un peu plus, mais pas grand-chose. Moi, j'ai écrit dans des grands cahiers d'écoliers, et je parlais de ses livres.
Vous commentiez son œuvre, en quelque sorte.
Ouais, je commentais ses livres dans la chronologie de parution. Et j'ai rempli 3 cahiers, comme ça, des grands formats, et je m'étais réservé pour moi la dernière page du 3e cahier, du dernier cahier.
Donc, pour vous adresser à lui, en quelque sorte.
Ouais, je m'adresse, et j'explique qui je suis.
Bien sûr.
Voilà. Et donc, le travail étant fini, je ne pouvais pas l'envoyer par la poste, parce qu'à ce moment-là, il y avait les grèves de 68.
Ok.
Donc...
Vous le déposez ?
Je vais le déposer à l'Institut, à l'Académie française.
Ouais, bien sûr.
Il y avait un portail d'ouvert. J'entre, innocemment. Et là, j'avais fait 2 pas à peine, qu'il y a un monsieur qui me dit « Jeune homme, comment je peux vous aider ?» Je dis « Est-ce que vous pensez que c'est possible de remettre ça à monsieur Joseph Kessel ?» Il me dit « Oui, tout est possible. Et c'est quoi ça ?» Alors, je m'apprêtais à ouvrir cette enveloppe. « Non, 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 explique-moi, je te crois. » L'agent que je lui explique. Il me dit « Très bien. » Et il me dit « Pourquoi tu fais ça ?» Et moi, je réponds un peu niaisement, parce que je dis « C'est mon héros. »
Pas mal.
Voilà.
Donc, bon, accélérons un petit peu,
ouais.
Et finalement, assez peu de temps après, le téléphone sonne chez vous.
Alors, voilà, c'est ça, le téléphone sonne, ma mère dit, Pierre Hubert, il y a un monsieur qui veut te parler. À ce moment-là, je dis, un monsieur qui, monsieur quoi ? Je dis, je ne connais pas de monsieur. Il me dit, le mieux, ça serait que tu lui poses la question. Donc, je prends le téléphone, je fais allô, je dis, bonsoir, êtes-vous Hubert Boucara ? Je dis, oui, monsieur. Il dit, je suis Jeff Kessel. Donc, on est un peu scotché quand même.
J'imagine.
Ouais.
Il vous donne rendez-vous ?
Et donc, on échange quelques mots quand même. Il me demande ce que je veux. Et je dis ce que je veux, c'est, je vous le dis à la fin, c'est pouvoir se rencontrer. Il dit, oui, d'accord, mais pourquoi faire ? Pour parler. Parler de la vie, parler des livres, des vôtres, de ceux des autres. Et il me dit, vous êtes journaliste ?
Et je dis, monsieur, non, j'ai
16 ans et je suis lycéen.
C'est génial. Voilà. Ça ne l'a pas effrayé ?
Non, il me dit, je crois que celle-ci, on ne me l'avait pas encore faite.
C'est très bien, j'adore. La jeunesse de Kessel, on continue l'histoire après, mais j'aime bien entendre sa voix. Il est né en Argentine, par hasard, en 98, mais très vite.
Ah, pas tellement par hasard.
Enfin, simplifie un peu, il n'y est pas resté longtemps en tout cas.
Non.
Et il est retourné à la Russie familiale, près d'Orenbourg. Écoutez-le parler de cette région d'Orenbourg.
J'ai vu, avant de savoir ce qu'était une automobile, des caravanes qui venaient du Turkestan, de Samarcande, avec leurs chants, leurs mélopées, avec les caravaniers qui étaient des Kirghizes, des Tatars, des Kalmouks, et qui se rendaient à la cour d'échange. C'était le troc. Les nomades apportaient des peaux de mouton, apportaient du thé, qu'ils échangeaient contre des samovars, contre des objets manufacturés. Et puis il y avait cette... immense liberté, cette steppe qui sentait l'absinthe, et je suis sûr que ça a eu sur ma vie une influence déterminante.
Une influence déterminante, cette jeunesse et ces paysages incroyables. Voilà, on revient juste sur la fin du début, si j'ose dire, de votre histoire. Vous vous rencontrez, et une amitié, malgré l'écart d'âge, se crée entre vous.
Voilà, on se rencontre... C'était un mercredi, c'était le 15 mai 1968.
Non, je ne vous crois pas. Vous n'êtes pas à ce point-là.
À 11h du matin.
Et où était-ce ?
À devant l'Institut, sur le parvis. À l'époque, c'était même un parking, il y avait quelques voitures. Et c'était là. Donc, moi, je suis arrivé un peu plus tôt, 11h moins le quart, pour ne pas le louper. Et à un moment donné, je le vois arriver, donc je n'étais même pas impressionné.
C'est vrai ?
Ouais, même pas.
Vous étiez à l'aise ?
Ouais.
Et lui ?
Aussi. Et il vient directement vers moi. Forcément, je devais être le seul type
adolescent devant l'Académie française.
Devant l'Académie française, il me regarde de toute sa hauteur et me dit, toi, tu dois être Hubert Boucara. Ah, je dis, oui, monsieur Kessel. Voilà, donc ça démarre comme ça. Il me dit, bon, tu veux quoi exactement ? Bah, je dis, comme je vous l'ai dit au téléphone, comme je vous l'ai dit dans les cahiers, hein, c'est se rencontrer puis, et se découvrir. Alors il me dit, bon, on va traverser. Donc on est allé en face chez les bouquinistes, et il me montre des livres, un coup je connaissais, 10 coups je ne connaissais pas.
Bien sûr.
Ah, il me dit, mais tu ne connais pas Macorlan ?
Pierre Macorlan, c'est formidable.
Pas encore, j'ai 16 ans, ça va venir.
Qu'est des brumes ?
Ouais.
L'étoile matutine ?
Ouais. Absolument, voilà. Donc, voilà. Donc, et puis, à un moment donné, je vois des livres. Ah, ben, je dis, par contre, lui, là, je le connais. C'était mon Fred.
Bien sûr.
Il me dit, mais tu sais que c'est un copain, moi ? Ah, je dis, oui, je sais. Voilà.
Oui, donc, les gens ignorent parfois que mon Fred est devenu écrivain alors que c'était un aventurier sous l'impulsion de Kessel qui lui a dit, mais tu peux écrire, tu sais le faire.
Bien sûr, évidemment. Voilà. Donc, on a cette première journée s'est passée à parler beaucoup parce que lui, très curieux, posait beaucoup de questions, moi aussi. On posait des questions, on est allé boire un coup à l'angle du quai Voltaire et de la rue du Bac. Uh-huh. Il y a une brasserie qui s'appelle La Frégate.
Oui, je vois, elle existe toujours d'ailleurs.
Elle existe toujours, elle est moins jolie qu'avant, mais bon. Et voilà, donc le garçon arrive et là il me dit, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Et moi je réponds, tout simplement, je dis, je sais pas, un coca. Il me dit, un coca, mais t'es sûr ?
C'est pas son genre, effectivement. Mais il était quand même tôt, d'autre part.
Voilà. Donc, bon, on me dit alors, un Coca-Cola pour le jeune homme et puis une double vodka pour moi.
Non, à 11h du matin.
Ouais,
il est fidèle à sa légende, dites donc.
Ouais.
Combien d'années d'amitié ?
11. Jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour. 23 juillet 79.
Pour rappeler à ceux qui nous écoutent qui était Jeff, on l'appelle comme ça, hein, Joseph Kessel, Jeff. Un écrivain prolifique, 88 livres, mais au départ, un journaliste avec des enquêtes incroyables. La plus marquante de toutes, ce n'est pas la première, c'est 1930, je crois, c'est celle sur la trace des marchands d'esclaves. Il y en avait encore à l'époque.
Alors ça, c'est 1930. C'est
difficile, puisque, en principe, les États que je devais parcourir faisaient partie de la Société des Nations et avaient renoncé à l'esclavage. Mais cet esclavage existait bel et bien. Et j'avais besoin d'une clé, pour ainsi dire, pour découvrir tout ce qui se cachait sous une apparence innocente. Et cette clé m'a été donnée par un extraordinaire aventurier dont tout le monde connaît le nom, mais qui à l'époque était inconnu et qui est Henri de Monfray. Je l'avais rencontré par hasard à Paris et nous sommes partis ensemble pour la mer Rouge où il m'a prêté son bateau et où, dans ses propriétés d'Abyssinie, j'ai vu un nombre considérable d'esclaves.
Le voilà, Joseph Kessel, en train de raconter un peu la jeunesse de l'affaire, l'amitié avec mon frère qui allait naître, parce que l'amitié est un maître mot de sa vie, j'ai l'impression.
Ah, c'est le maître mot de toute sa vie.
Absolument.
Ouais.
Et un homme à succès depuis son plus jeune âge, alors c'est pour ça que quand vous aviez 16 ans, ça l'a à peine impressionné, parce qu'à 21 ans, 22 ans, il avait commencé à publier lui-même.
Alors lui, son premier livre, c'est 1922.
Oui, 24 ans. Ouais, 23,
donc 24. Il a 24 ans, c'est La Steppe Rouge.
Et il était resté très jeune lui-même,
ouais.
Mentalement.
Et donc ce livre a un succès considérable à l'époque. Et Gaston Gallimard, son éditeur, lui dit « Bon, il faut enchaîner tout de suite, pour faire tout de suite, il ne faut pas attendre. » Donc il va faire L'Équipage.
Mais toute sa vie, il a eu cette méthode, me semble-t-il, l'expérience vécue, éventuellement le rapportage, et puis le livre, l'aviation, il est dans l'aviation, puis
souvent.
L'équipage. D'abord, ensuite, on parle, l'exemple typique ici, c'est le voyage sur la trace des marchands d'esclaves, ça devient le livre Fortune Carrée.
Fortune Carrée.
C'est arrivé assez souvent, cette méthode-là.
Ouais, alors il a fait ça pour d'autres livres. Le jeu du roi qui deviendra les cavaliers.
Et le Buscacci, le jeu afghan.
Voilà. La piste fauve, qui c'est le lion.
C'est le lion, bien sûr.
Évidemment.
Son plus grand succès. À mes yeux, pas le meilleur livre de sa carrière, mais son plus grand succès.
Mais lui-même le disait.
C'est vrai ?
Ouais.
Ah bah je suis un peu ravi.
À l'époque, Gaston Gallimard lui dit, tu sais Jeff, je t'aime beaucoup et ça fait 2 ans que tu sors rien du tout et je continue à te donner des avaloirs. Ça serait bien que tu fasses quelque chose. Il dit, je vais faire quelque chose. Donc il prend ce livre, La Piste Fauve, il va utiliser l'équivalent de moins de 2 pages. Il va faire le lion.
Et l'amitié là, entre une petite fille et un lion.
Voilà. Et là, la performance de Jeff, c'est qu'il l'écrit en 48 heures.
Mais non.
En 48 heures.
Bah, c'est pas possible.
Il connaissait tout, déjà. Si, sans blague. Et il donne le manuscrit à Gaston Gallimard, il dit, écoute, je t'ai fait ça, ça sera pas mon meilleur livre. Gallimard consulte ce manuscrit, lui dit « ça ne sera pas ton meilleur livre, mais on le fait ».
Et c'est la plus grosse vente.
Alors, un an plus tard, ça paraît en mai 58, en mai 59, on est à 1 770 000 exemplaires.
Vertigineux, en 48 heures.
C'est vertigineux. Hein.
Le ratio entre travail et succès.
Voilà.
Ça plaît, Joseph Kessel, aux gens de toutes les générations, son époque, la vôtre, la mienne aussi, et la même en gros, et puis les plus jeunes. À telle enseigne qu'actuellement se joue une pièce de théâtre qui raconte comment Kessel et son neveu Druon sont arrivés à composer le chant des partisans, ce que parfois les gens ont oublié. Les auteurs sont des jeunes gens, Julien Delpech, Alexandre Foulon qui est avec nous, je pense, au téléphone. Alexandre Foulon, vous êtes là ?
Oui, tout à fait.
Merci, merci de nous rejoindre. Nous écoutions Hubert Boucara, je ne sais pas si vous aviez le son dans votre téléphone, qui est donc
un ami,
qui a connu... Vous êtes jaloux, vous êtes comme moi, non? Parce que lui était son ami, et nous
un
non.
Un petit peu.
Il a vécu en direct, ce que nous connaissons de manière théorique. Alors, première question, vous êtes deux. Comment fonctionne l'écriture à deux, Julien Delpech, chez vous? Comment ça se répartit?
Eh bien, comme on a l'habitude de travailler sur des pièces, on va dire, à base historique, dirons-nous, on se documente chacun de notre côté, on lit différents ouvrages, et après on se fait une sorte de compte-rendu de ce qu'on a retenu, ce qui nous a semblé intéressant à mettre dans une dramaturgie, puisque nous, notre contrainte, elle est de raconter quelque chose en 1h30
exact.
Dans les conditions du théâtre.
Est-ce que vous avez mis deux jours comme Kessel pour écrire Le Lion?
Non. Là, c'est plutôt 2 ans. ça met plutôt 2 ans parce que c'est un travail vraiment de recherche. On lit plein de livres. Il y a des anecdotes qui nous plaisent, qu'on essaye de garder. Mais après, on essaie de mettre tout ensemble. Et des fois, il y en a qui doivent sauter, malheureusement, à contre-cœur.
Vous avez lu beaucoup de livres de Kessel? Vous avez lu beaucoup de livres de lui-même ou pas tant que ça?
Alors, on a surtout lu des biographies.
Sur lui, d'accord. Oui.
Sur lui. Parce que nous, le truc, c'est qu'on essayait de saisir l'homme, quoi. Donc, on essayait d'avoir des documents sur lui. Donc, après, on a un peu lu. Puis après, mon travail, c'était de lire ce qu'on appelle un peu les autobiographies, le tour du malheur, quoi.
4 tomes,
oui. Où il se raconte à travers un double, quoi.
Oui, pardon, je vous coupe un instant, Alexandre. Autobiographie, c'est une déduction, mais ça n'est pas officiellement. C'est censé être un roman, mais vous êtes d'accord, Hubert Boucara, que ça lui ressemble beaucoup.
À la parution de ces 4 volumes de Le Tour du Malheur, lui le revendiquait comme étant sa seule vraie fiction.
C'est ça.
Or, quand on commence à le lire, on comprend très vite que c'est pas vrai.
C'est lui, le personnage.
Alors, Richard Dallot, le personnage central, alors c'est lui, c'est encore un autre, il y en a deux. C'est lui et c'est Henri Torres, l'avocat. C'est les deux.
Comment est-ce que vous avez fait parce qu'il y a tellement de choses à dire sur Kessel, c'est tellement immense, sa vie est tellement fantastique. Comment est-ce que vous avez sélectionné les meilleurs passages pour en arriver au sommet, qui est le chant des partisans?
Du coup, on a sélectionné uniquement, on va dire, ce qui concerne... C'est compliqué, hein, mais en gros, il y a eu toute la partie donc, avec Germaine Sablon, puisque
amie intime
exactement,
de Jeff.
C'est la première interprète, exactement. Et c'est alors ce qui est très intéressant sur Germaine, c'est que c'est la seule maîtresse, on trouve, qui lui est un peu tenue tête.
Puisque vous êtes d'accord avec ça, Hubert?
Un immense séducteur. Ouais, c'est la seule en fait qui a eu la capacité de quitter Jeff.
Avant d'en parler plus longuement, Alexandre Foulon, je vous propose d'écouter la bande-annonce de votre pièce Le Chant des Lions.
Soit ivre.
Je sais pas si j'arriverai à trouver les mots pour vous décrire.
Ça marche toujours ce genre de compliment.
On ne refuse rien à Monsieur Kessel.
Appelle-moi Jeff comme tout le monde.
Elles ne sont pas nombreuses, celles qui partagent tout avec toi.
Les lions reviennent toujours vers ceux qu'ils aiment.
Germaine me ressemble, toi tu me complètes.
Comme moi, je ne connais personne au monde qui sache rire comme toi.
Notre histoire, c'était une belle chanson.
Tous les hommes valides et en âge de se battre doivent se rendre immédiatement à la gendarmerie la plus proche de chez eux.
Et si on disait merde de la fatalité?
Nous faisons la guerre parce qu'elle nous est imposée.
Paris n'existe plus.
On cherche un moyen d'unir tous les résistants français.
Une chanson, ça unit, ça fédère, ça rassemble.
Il n'y a que Germaine pour chanter ça.
Merde! Qu'est-ce que tu veux, toi?
Ne plus jamais avoir affaire à toi.
Est-ce que tu veux entrer dans la résistance? Contre la mort.
Pour notre ami, résistons une dernière fois.
Une musique russe et des paroles donc de Kessel et son neveu Maurice Druon. C'est le titre de votre pièce, qui est une progression lente vers l'écriture de ce morceau de bravo.
Exactement. C'est ça qu'on a voulu raconter. Aussi, ce qu'on a voulu raconter, c'était que... alors bien sûr, bon, ce chant s'inscrit effectivement bien sûr dans une époque et tout ça, ce qui fait que il est aussi célèbre et aussi poignant. Mais pour Jeff, le colosse, ça s'est pas fait tout seul. Ça s'est fait donc avec Maurice Druon, son neveu, qui, je pense, rêvait d'écrire avec lui, enfin de co-écrire avec lui. Il s'est fait avec du coup sa plus forte maîtresse, en tout cas, Germaine Sablon, et sur la musique d'Anna Marley, qui a des origines russes comme lui.
Ce qui est amusant, c'est que votre pièce, pardonnez-moi, je vous ai coupé, excusez-moi, mais oui. Votre pièce, ce qui est très surprenant, moi je ne m'y attendais pas, j'avoue que c'est presque, j'exagère, hein, mais c'est presque une comédie musicale, ce qui est un peu inattendu pour parler de Kessel.
Oui, alors c'est vrai qu'il n'était pas un grand mélomane, hein, il est connu pour ça, mais effectivement, on a eu à cœur d'essayer de rendre la grandeur de ces personnages-là, bien sûr la grandeur de Kessel, mais aussi de Germaine et de Maurice, puisque bon, bah, Maurice Dron, c'est quand même aussi quelqu'un.
Bien sûr.
On a essayé de rendre ça à travers notre époque pour intéresser toutes les générations à ça. Et donc, on s'est dit que, comme on n'allait pas rentrer dans tous les travers des drogues, parce que c'est ça, l'univers de la nuit,
il y a ça aussi,
et tout ça, au théâtre, c'est un peu compliqué à rendre. Au cinéma, je pense que c'est plus facile, mais au théâtre, bon, prendre de l'héroïne, prendre de la cocaïne, bon, ça ne va pas être très intéressant, je pense. Donc, nous, ce qu'on a, on s'est dit, on va essayer de le prendre par la gaieté, par la joie de vivre. Puisque ce sont un peu aussi des âmes en peine, c'est des gens, je pense, qui souffrent beaucoup,
des vraiment slaves, slaves,
voilà, qui portent quelque chose de très lourd en eux, mais qui le compensent par quelque chose, et par qui le compensent par cette force de vivre, cette joie de vivre. Et donc c'est vrai qu'on a essayé de mettre l'accent sur cette joie de vivre pour faire passer en creux et d'autant plus fort cette douleur de vivre, cette douleur de la perte, bien sûr, de son frère, qui est, je crois, le démarrage de tout ce qui fait que Jeff sera perpétuellement en lutte avec lui-même, avec ses démons, avec ses fantômes. Et c'est
son
ça
frère
qui
Lazare,
rend le personnage...
oui, son frère Lazare, comédien, qui se suicide et qui est le père de
exactement.
Maurice Druon. Hubert, je vous coupe
exactement.
Un instant, mais parce qu'on a un témoin privilégié, j'en profite de lui aussi. Hubert, est-ce que Jeff s'est penché sur des choses intimes avec vous ou c'était pas du tout son registre? Est-ce qu'il vous a parlé de ces douleurs-là qu'évoquait Alexandre Foulon?
Non, il parlait pas de ça.
Pas du tout.
Non. De son frère, ouais. Il n'en parlait jamais. C'était quelque chose qui était très personnel. Et donc, il n'en parlait pas. Jamais.
Est-ce qu'il vous a parlé du chant des partisans? Est-ce qu'il vous parlait de ses souvenirs de cette époque-là?
Oui, alors ça dépend. S'il en parlait, si je posais des questions.
D'accord.
Voilà. Si je ne pose pas de questions, il n'y a aucune raison qu'il
évoque... Il est dans le présent.
Ouais. Mais quand je pose des questions, il répond aux questions. Tout le temps.
Vous l'aimez de loin, j'imagine, comme moi, mais vous l'aimez, Jeff Kessel, sinon vous n'auriez pas fait cette pièce. Non, c'est quand même un personnage merveilleux, Alexandre.
Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Il y a quelque chose de bouleversant, hein, de bouleversant. C'est vrai que nous, on a essayé un peu d'égratigner un petit peu l'image de Jeff Kessel comme ce qu'on a ressenti à travers la lecture du Tour du Malheur, c'est-à-dire cet homme qui est formidable et en même temps qui se déteste. Je pense qu'on peut aller jusqu'à là, qui a des pensées sombres vis-à-vis de lui-même. Et donc, on a essayé de montrer ça, de gratter un petit peu sous la peinture de Kessel, Et donc, un peu de le descendre un petit peu son pédestal pour rendre encore plus humain. Et je trouve qu'en le rendant plus humain, il est encore plus passionnant.
Écoutez-le quelques secondes. Je vous reprends après, Alexandre. Oui. Hein. Écoutons-le quelques secondes, qui est celle qui parle justement de sa passion pour la vie nocturne, la musique tzigane, cette espèce de démesure et cette souffrance slave dont vous parliez à l'instant.
J'étais comme les héros de Dostoïevski, de Tolstoï. Si j'avais eu un peu d'argent, et si tout de même je n'avais pas appris un peu de raison occidentale en France... J'aurais été un clochard, une épave, pas du tout pour la boisson, mais l'intoxication de ces gens qui chantent la liberté, l'amour, la détresse, la joie, enfin, qui forment un univers et qui font ça depuis je ne sais pas combien de temps, enfin depuis des siècles.
Hubert Boukara, quand vous avez connu Joseph Kessel, il était un peu plus âgé. Est-ce qu'il était encore un peu noctambule?
Oui, oui. Il est resté longtemps.
Il allait les cabarets russes, vous avez vécu ça avec lui ou c'était quand même plus tard?
Alors les cabarets russes commençaient à disparaître. Mais bon, on allait dans d'autres endroits, mais il était... en fait, il passait sa vie dehors.
C'est vrai.
Quand on était chez lui, souvent ça se passait comme ça. Il me dit, dis-moi garçon, tu fais quoi ces deux prochaines heures? Rien. Dire, on y va, on s'en va.
Et vous alliez où?
On marchait, on allait dans des brasseries. Bon, là où on allait souvent, c'était chez Lippe.
Ah oui, ben.
Ouais.
Qu'est-ce qui est le plus admirable pour vous chez Kessel, Alexandre Foulon? Qu'est-ce qui vous plaît chez lui finalement?
Un truc qui je trouve assez touchant parce que c'est rare en fait, c'est, c'est sa fidélité dans son infidélité.
C'est-à-dire
que ben, c'est
ça fait bien
rire énormément de femmes, mais par exemple Sonia, sa première maîtresse, eh bien, elle a une garçonnière, je crois, sur les Champs-Élysées, et il va la voir une fois par semaine toute sa vie.
Ah oui, il a payé beaucoup, il a entretenu beaucoup ses femmes pendant des années.
Ça. Et donc, alors qu'il aurait pu, enfin, je veux dire. Si c'était vraiment cet homme à femme, il aurait pu tout à fait être un goujat et ne plus les revoir.
Vous êtes d'accord avec ça, Hubert?
Oui, mais Sonia, c'était la favorite.
C'est vrai?
Ah oui.
Vous avez connu sa dernière femme, vous, Michel O'Brien, l'Irlandaise alcoolique, je n'insulte pas sa mémoire en disant ça.
Non.
Et pour laquelle il a payé les cures sans arrêt.
13 cures.
Oui, il était finalement fiable. Vous avez raison, bien qu'infidèle, il était fiable.
C'est ça, il y a toujours les deux côtés, il y a toujours les deux facettes chez lui, et c'est ça qui est très intéressant, et c'est ça qui est bouleversant. C'est vraiment cette dualité qu'il a en lui entre quelqu'un de flamboyant et quelqu'un de écrit par les remords, quoi. Donc ça, c'est très intéressant à travailler, et c'est vrai que notre interprète qui est un petit peu, qui est Eric Sampos, qui interprète Joseph Kessel, est un peu à contre-emploi. Mais c'est aussi très intéressant de le prendre à contre-emploi parce que je pense que ça aide à saisir un petit peu cette complexité de personnage, quoi. C'est vraiment pas quelqu'un de lisse, c'est quelqu'un d'extrêmement profond, je pense, et c'est pour ça qu'il a autant passionné.
On peut vraiment le lire maintenant, c'est même 80 ans après. Moi, je recommande à tout le monde de lire Kessel. Il n'y a rien de décevant. Vous disiez 88 livres, Hubert, moi j'en connais au moins 50 qui sont vraiment bien.
Alors, c'est difficile parce que en fait, ils sont tous très bien. Certains mieux que d'autres.
Bien sûr.
Bon, moi, je mets en priorité, je mets l'Armée des Ombres.
Ah, évidemment. Voilà. Alors, c'est gentil, ça nous relance sur la pièce, puisque l'Armée des Ombres, c'est le livre écrit, c'est presque une commande, hein, du général de Gaulle qui dit « Écrivez, faites Kessel ».
C'est une commande.
Donc, ces deux faits d'armes, sous votre contrôle, Hubert et vous aussi, Alexandre Foulon, les deux faits d'armes de Kessel pendant la Deuxième Guerre mondiale, la première, il a combattu dans l'aviation, c'est donc l'écriture du chant des partisans avec Drouillon et cet incroyable livre, L'Armée des Ombres, qui devient un très beau film plus tard.
De Gaulle lui demande de faire ça.
C'est ça, il lui demande vraiment. Vous y faites allusion, la pièce y fait allusion, n'est-ce pas, Alexandre?
Tout à fait, exactement. Exactement, et c'est vrai qu'on a choisi un petit passage de L'Armée des Ombres qui est lu, qui est bouleversant, et aussi une commande pour le chant des partisans. Et ce qui est très intéressant dans L'Armée des Ombres, c'est que comme il doit effacer, c'est ce qui est dit dans la préface, il n'a pas eu un livre plus difficile à écrire, puisqu'il a dû tout effacer et tout réinventer. Et pour quelqu'un qui avait l'habitude de, on va dire, pas se mettre en avant, mais bon, disons, d'occuper la première place, quoi, c'est vrai que de tout devoir effacer comme ça, ça a dû être un travail très compliqué pour lui, mais c'est là où c'est fabuleux, quoi.
Une vie physiquement presque héroïque, d'aller au-delà du danger, de prendre des risques, et une vie de noctambule aussi. C'est en ça qui nous intéresse. Un petit mot sur sa vision de la vie nocturne qui en rentrait dans le Montparnasse des années 30-40.
Pas vous,
on l'écoute, Jeff. Ah, oui.
Le monde entier, des grands vivants comme Kisling, comme Les Sandrard, comme Hemingway, et un bouillonnement d'idées, d'art, de confrontation, folle parfois, mais d'autant plus précieuse. Les amitiés se nouaient, la bourse était commune, et c'était vraiment, je vous dis, une espèce de paradis d'une violence merveilleuse.
J'adore cette phrase, et tout Kessel, non, un paradis d'une violence merveilleuse, c'est incroyable, et puis il l'improvise en plus, c'est lui ça, non, Hubert?
Complètement.
Complètement lui.
Bah, il vivait à 100 à l'heure.
Quel personnage, est-ce qu'il y a des gens de ce niveau, de cette envergure-là de nos jours? Je ne sais pas, je ne vois pas à la première vue.
Je ne suis pas convaincu. Hein.
Vous qui êtes beaucoup plus jeune, Alexandre Foulon, vous voyez des gens de cette stature-là dans l'univers littéraire ou artistique?
Dans l'univers littéraire, non. Après, quelqu'un qui pourrait dévorer la vie, qui pourrait ressembler à ce côté un peu ogre, il pourrait y avoir un peu du Gérard Depardieu dans une version déclinée et pas slave, quoi.
Ouais.
Il pourrait y avoir comme ça cette envie de bouffer, cette envie de croquer la vie. Et voilà, je pense qu'il pourrait y avoir un parallèle, mais c'est des êtres. Surpuissant, quoi. C'est ça qui en ressort, quoi. Mais effectivement, oui, dans notre monde, de toute façon, tout ce qui, c'est ça qui était très difficile à raconter dans la pièce, c'était de trouver l'équivalent de nos jours. Par exemple, Germaine Sablon, donc, qui est une chanteuse vedette et tout ça, qui va faire le débarquement de Provence, qui va aller jusqu'à Strasbourg et tout ça en tant qu'infirmière. Est-ce que vous connaissez à l'heure actuelle une personne, une célébrité qui aurait beaucoup d'argent, qui aurait beaucoup de contacts, qui déciderait de faire un débarquement, un débarquement et d'aller ramasser les camarades qui sont éclopés, les bras, les trucs, et aller les enterrer.
Oui, il a mis sa carrière complètement de côté.
Exactement, j'ai du mal à imaginer une actrice ou une chanteuse capable de faire ça de nos jours. Je ne vois absolument pas qui serait capable de faire ça.
Je trouve et que donc, votre pièce, qui effectivement est une pièce consacrée en effet à Kessel et à Druon, qui est un peu dans son ombre, mais elle rend aussi un bel hommage à ce personnage féminin, Germaine Sablon. C'est presque le personnage le plus sympathique, parce que Kessel a parfois des excès qui peuvent énerver. Et cette Germaine semble quelqu'un de remarquable.
Ben c'est vrai que c'est grâce au travail de Dominique Missica qui a, on va dire, déterré Germaine Sablon, puisque autant Kessel et Druon, bon, ben des traces et des documents et des anecdotes, il y en a. Mais alors Germaine Sablon, il n'y avait quasiment rien, quoi. Et c'est vrai qu'elle a fait un travail fabuleux, qu'elle raconte dans son essai Un amour de Kessel, où effectivement on se rend compte que tout ce qu'elle fait est absolument fou. Et c'est-à-dire que même des fois, alors ça on l'a pas mis dans la pièce, mais des fois c'est même en défaveur de Jeff. Par exemple, à un moment, elle doit partir pour aller en Algérie pour rejoindre la première division de la France Libre qui est là-bas. Oui. Et Jeff lui dit, eh ben, si tu pars là-bas, c'est fini entre nous, quoi. Donc en fait...
Et elle le fait quand même.
Quand même c'est-à-dire qu'elle dit, ben, moi je vais m'engager pour libérer mon pays, et lui, il lui dit, ah ben attention, si tu fais ça, on n'est plus ensemble. C'est quand même, je ne sais pas si c'est, c'est le geste le plus patriotique qu'on peut imaginer.
Peut-être, c'est bien vu. Sacrifier son amour à la patrie.
Exactement.
C'est le chant des lions, c'est-à-dire, puisque le surnom de Kessel, c'est le lion. Hein, je me souviens de la biographie de Courrières que vous avez lue sur la piste du lion. Donc le chant des lions, puisqu'ils sont deux, ils sont même trois, parce qu'à mon avis, Germaine Sablon est aussi une lioness, comment dire, une lionne, en anglais. Ça se passe au théâtre Tristan Bernard. Oui. Un mot rapide sur les acteurs principaux. Alors, juste rappeler leur nom.
Donc Marina Pangos interprète.
Formidable.
Interprète divinement Germaine
Sablon.
Elle
chante, elle fait tout très bien.
Excellent. On a Thibaut Pinson qui est un Lazare Kessel et aussi un Maurice Druon bouleversant. On a donc Éric Chanteuse qui joue Kessel. On a Élodie Collin qui va interpréter Katia. Dans Katia, on a essayé de résumer un petit peu toutes les femmes qui ont essayé petit peu de gérer Kessel, qui ont essayé de lui donner une vie...
Gérer Kessel, ça semble impossible. C'est un pari fou.
Qui ont essayé. Qui ont essayé. Il y a Thierry Pietra qui incarne plein de rôles, qui est fabuleux, qui va notamment donc, endosser un rôle qui s'appelle Darié, qui est en fait la composition de d'Astier, d'Emmanuel d'Astier de la Vigerie, et puis d'un patron, d'un chef d'un réseau, du réseau CAR.
C'est ça. Oui, vous avez compacté l'histoire. Il y a des choses qui sont... Vous prenez quelques petites libertés, vous n'avez pas eu le choix.
Exactement. Et enfin, on a notre compositeur, puisque le son prend une grande, grande place dans ce spectacle.
Oui, très bien
traité.
Donc, on
a notre compositeur qui est Mehdi Bourayou, qui est quelqu'un d'incroyable, parce que à travers le... Nous, ce qu'on essaie aussi de raconter, c'est que c'est à travers la radio que tout se passe, à travers la radio. Donc, c'est très intéressant.
Ici, Londres, les Français parlent au français. Jean a de longues moustaches.
C'était comme ça. Merci beaucoup, Alexandre Foulon. C'est très gentil d'avoir pris un petit quart d'heure avec nous. Le Chant des Lions, c'est actuellement au théâtre Tristan Bernard. Pour les fans de Kessel, ils y retrouveront leur Jeff chéri, même s'il est parfois un peu écorné. Et ceux qui ne le connaissent pas, toute génération confondue, il faut aller le découvrir. Je pense qu'il serait bien que vous invitiez Hubert Boukara à venir voir ça. Enfin, je dis ça, ça ne me regarde pas.
Ah bah c'est quand il veut, bien sûr.
Parfait. Merci beaucoup. Merci infiniment. On continue avec Hubert à parler de Kessel pendant un bon moment. De la chance. Et on va vous dire au revoir, Alexandre, en écoutant Aznavour qui parle des chants de Tzigane. Merci, Alexandre Foulon.
De Tzigane sans répit grattent leur guitare, ranimant du fond des nuits toute ma mémoire, sans savoir que roule en moi un flot de détresse. Font renaître sous leurs doigts ma folle jeunesse. Et hélas, Jouer Digane, jouer Beaumont, avec plus de flamme, afin de courir la voix qui dit à mon âme, où as-tu mal? Pourquoi tu m'as ta mal à la tête, mais bois un peu moins aujourd'hui, tu boiras plus demain, et encore plus après demain. Je veux rire, me chanter et saouler ma peine pour oublier le passé qu'avec moi je traîne à l'air. Apportez-moi du vin fort, car le vin délivre au versé, versez-moi encore pour que je m'enivre. Hey,
les deux guitares, Charles Aznavour, qui n'a pas été spécialement un ami de Kessel, c'est pas le sujet, mais en tout cas, il évoque ces chants qui étaient pour Kessel comme un fleuve qui irriguait sa vie, quoi. Il adorait ça.
Alors, il aimait cette musique, mais ça le mettait toujours dans un état de mélancolie.
Ah, c'est ça, c'est exactement ça. On danse et on pleure les deux à la fois.
Et on boit.
Et on boit.
Et on boit.
Mais lui, contrairement à beaucoup d'autres, et vous me l'avez dit, je le savais, vous l'avez confirmé, éclusait, pardon pour cette trivialité, mais des litres et des litres. Mais le lendemain, il était à sa table de travail, il n'était pas une épave.
Mais même au moment où il buvait, ça ne se voyait pas.
Il n'était jamais vraiment ivre.
Bah, ça ne se voyait pas. Mmh. Alors, la légende raconte que dans ces cas-là, il mangeait du verre, mais ce n'est pas vrai.
Bon,
il cassait des verres avec ses dents, mais il ne mangeait pas. Il avalait pas le verre. C'est pas vrai, ça.
Ah bon,
c'est une légende.
Pourtant, tout le monde le dit.
Tout le monde le dit, mais c'est pas vrai.
Il laissait dire.
Voilà. Donc, mais il cassait. Déjà, ça, c'est énorme.
Oui, il cassait.
On peut se blesser, quoi.
Oui, et je sais que parfois, il avait des regrets. Le lendemain de ses excès, il était...
Alors, parfois, oui, dans certains cas, il était un peu colérique. Fallait pas le contrarier. Voilà. Mm-hmm. Surtout pas.
Un personnage étonnant, mais il n'est pas question de le réduire du tout au noctambule, mais ça fait partie de sa vie. C'est quelqu'un qui a créé, c'est quelqu'un qui a rapporté des faits, qui a été un romancier de fiction et un reporter. Et dans ses nombreux reportages, il y en a un avant-guerre où il voit de très près le chancelier.
J'ai vu monter sous un orage d'acclamations, dans une espèce d'hystérie, de délire passionnel, un homme à figure très pâle, le nez en l'air, une petite mèche sur le front, habillé d'une façon quelconque, et qui vraiment ne semblait pas justifier cette espèce d'idolâtrie. Et puis il s'est mis à parler.
Wir bauen heute die schönsten Straßen, gewaltige Anlagen, industrielle Art, neue Erfindungen haben wir gemacht, ungeheure Wohnhauskolonien, sie werden entstehen.
Et alors là, j'ai été déçu encore davantage. La voix était criarde, coupée. Il ne disait que des banalités, des choses très vagues, et chacune de ses phrases soulevait l'enthousiasme. Et peu à peu, il s'est mis en transe. Et alors là, j'ai commencé à comprendre l'empire qu'il exerçait sur son public. Il était tellement infatué, amoureux de lui-même, tellement persuadé de son propre magnétisme et de son propre pouvoir, que peu à peu, il le communiquait aux autres. Et à mesure qu'il criait « Moi, 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 l'Allemagne c'est moi, l'Allemagne c'est vous, moi, vous, je ferai de vous l'Allemagne et je vous entraînerai à ma suite vers les grandeurs », il les intoxiquait complètement et exerçait sur eux une espèce d'hypnotisme.
C'est Joseph Kessel qui résume un meeting d'Adolf Hitler auquel il a assisté de très près, et c'est bien résumé le personnage, non ?
Ouais, ça c'est 1932. Mm-hmm. C'est au moment où il fait un reportage qui s'appelle « Bafon ».
Oui, c'est ça. Il n'est pas encore... C'est 33, l'accession de Hitler au pouvoir. C'est avant qu'il devienne chancelier, 30, juste avant.
Ouais, 32. Donc, il est introduit dans les milieux de la pègre berlinoise. Il était présenté, il a été présenté lui-même comme étant un caïd parisien. Sinon, ça ne marchait pas.
C'est ça.
Et donc, il a assisté à, ce, à, ces meet- à un ou plusieurs meetings et, avec Hitler.
Mais il a toujours cette objectivité étonnante, il ne cède pas à l'invective. Il dit juste, c'est un homme qui ne m'impressionne pas, il ne définit pas, comme ce serait facile de le faire 30 ans après, un personnage épouvantable, maléfique. Non, il est plus factuel que ça.
Ouais, complètement.
D'ailleurs, ce n'était pas un militant de quoi que ce soit, d'ailleurs. Quelles sont ses opinions politiques? On les connaît à peine.
Alors
Contre le nazisme, évidemment, bien sûr, mais à part ça...
Contre les bolchevaux aussi.
Contre les...
Les bolcheviques.
Ah, les bolcheviques, pardon. Ouais. D'accord.
Il n'aimait pas les bolcheviques. Hein.
Oui, et pour cause.
Ah, il l'a beaucoup écrit quand même.
Oui, c'est vrai.
Dans ce qu'on appelle la période russe de Kessel, il ne fait pas de cadeaux aux bolcheviques.
C'est vrai.
Dans Nuit de Sibérie, c'est d'une violence inouïe. Le récit est remarquable, mais c'est très violent. Les rois aveugles, c'est pareil, c'est intéressant, parce que c'est un roman historique où il parle de la fin des tsars. Et dans, tout ce que, dans toutes les nouvelles et contes de ce qu'on appelle la période russe de Kessel, en fait, c'est très anti-bolchevique.
Mais Romain Gary, par exemple, qui a été presque un ami pour lui...
Hein, ils étaient très proches.
Voilà, Romain Gary ne se cachait pas d'être un gaulliste jusqu'au boutiste, militant. Mais c'est pas tout à fait le cas de Jeff.
Jeff était gaulliste. Il était très proche de De Gaulle. Mm-hmm. Ils se connaissaient très
oui,
bien.
Oui, je me souviens avoir vu des lettres de De Gaulle. Je lui écrivais « Mon cher maître » en le remerciant d'un livre qu'il avait écrit.
Ouais, ouais, mais j'ai vu des lettres... très intéressante de l'un à l'autre.
Ah oui.
Donc, non, il s'appréciait beaucoup. Or, Gary, lui, revendiquait le gaullisme.
C'est ça.
Ouais.
Il était à la Colombée des Églises, ouais. Le jour de l'enterrement, ouais. Avec son petit battle dress.
Ouais. Mais dans son uniforme.
Un peu serré.
Ouais, exactement. C'est ça, ouais.
Et une écharpe rouge assez bizarre. Ouais. Mais vous, Hubert Boukara, vous tenez cette librairie qui s'appelle La Rose de Java, en hommage à votre ami Jeff Kessel. Pourquoi cette librairie s'appelle comme celle-ci?
Alors, parce que le jour de mes 22 ans, il m'a offert le manuscrit de ce livre.
Oh là là.
Que j'ai toujours.
Non, merveilleux.
Il est rangé précieusement chez moi.
Curiosité d'amateur, c'est très raturé, ça part dans tous les sens ou...
Alors, pas au départ, mais il y a des moments où il y a plus de ratures. Alors, par contre, il avait il y avait quelque chose de bien. Une caractéristique, c'est que. Il avait une écriture extrêmement petite, comme je dis souvent. Inversement proportionnel à son
talent.
Ah non, à son physique.
À son physique, c'est ça.
À son physique. Autant lui était grand et massif, costaud, il avait une écriture qui était extrêmement petite. Alors à tel point que pour lire un manuscrit, moi je suis obligé de prendre une loupe. Voilà, je suis obligé d'utiliser une loupe ou alors de scanner la page en un peu plus grand.
N'oublions pas qu'il est né russe, qu'il est resté en Russie jusqu'à ce qu'il arrive à Nice, je crois, vers 8 ou 9 ans. Mais qui est devenu un auteur français, plus que francophone, sanctifié par l'Académie française. Quel parcours incroyable pour ce, comme il se définit lui-même, ce petit juif d'Europe de l'Est.
C'est ce qu'il disait quand il est rentré à l'Académie française.
C'est ça.
Vous accueillez en votre sein un juif d'Europe orientale.
Oui, pour remplacer le précédent qui avait son fauteuil, c'était le duc de la force. L'incarnation de la France traditionnelle. Ouais. Il dit, pour le remplacer, vous avez choisi un juif de l'Est.
Absolument.
Et c'est un très beau texte.
Ouais, ouais. Donc ça, c'est dans son discours d'entrée.
Épée dessinée par Cocteau, ça c'est magnifique aussi, l'épée d'académicien.
Ouais, et réalisée par Cartier.
Ouais, c'est chic.
Ouais.
Au fait, l'aspect juif de son personnage, c'est important? Il parlait de son judaïsme?
Alors au départ, non. Au tout départ, non. Jusqu'à un moment donné, alors ça se passe en 1924, vient à sa rencontre un type qui lui dit, voilà, venez nous voir. Alors à ce moment-là, la Palestine mandataire.
C'est ça.
1924. Venez voir ce qu'on fait dans les kibboutz. Il dit, ça ne m'intéresse pas. Et il dit, le sionisme est une utopie auquel je ne crois pas. Ça ne marchera jamais.
Et ses parents sont juifs tous les deux. Son père est médecin, mais il n'a pas d'éducation
non,
du tout.
Non, ses parents ne lui ont pas donné ça.
Pas du tout.
Malgré que sa mère était fille de rabbin.
Mm-hmm.
Mais bon, ils n'ont pas eu ça. Et donc, le personnage en question s'appelait Chaim Weizmann.
Ah, qui est un des pères du sionisme.
Oui, et puis qui deviendra plus tard... le premier président de l'État d'Israël. Donc Weizmann revient à la charge. Il dit, écoutez, on vous invite, on vous paye le voyage, on vous loge, on vous nourrit, on ne vous demande rien en échange. Et finalement, Jeff finit par accepter l'invitation en disant, j'accepte parce que c'est une aventure.
Il est possible, je ne sais pas, vous me contrariez peut-être, que cet aspect, cette part juive de sa personnalité ait joué un rôle dans la lutte qu'il a finalement menée contre le nazisme. C'est pas tout de suite, hein, il n'est pas résistant tout de suite, il prend un petit peu de temps, il écrit dans le Sud, et finalement il rejoint quand même un réseau, écoutez-le en parler.
J'ai fait partie d'un réseau de résistance où j'ai fait ce que beaucoup de gens ont fait. J'ai transporté des armes, de l'argent, beaucoup d'argent. J'ai procédé à des embarquements et des débarquements clandestins.
Voilà les débuts de sa carrière de résistant qui commence en 42 ou 3, je ne sais plus
c'est
très
ça,
bien.
C'est ça, à peu près, ouais.
C'est ça. C'est pas, il n'a pas cédé à l'appel du 18 juin, c'est pas quelqu'un qui est arrivé tout de suite.
Non.
Au début, le siècle vit sa vie et lui, il écrit, il est un peu à côté, comme Malraux l'a fait encore plus longtemps. Mais finalement, il s'engage quand même.
Il s'engage assez vite quand même.
Avec Germaine Sablon, comme le rappelait Alexandre Foulon, qui a joué
Germaine
un rôle.
Avec Germaine Sablon, puis d'autres. Il était compagnon avec Emmanuel Dacier.
Bien sûr.
Ils faisaient les mêmes trucs.
Et donc, vous le disiez tout à l'heure, il n'évoquait pas beaucoup ses souvenirs, sauf question. Vous en posiez ?
Oui, parce que c'était une sorte de jeu entre nous. Lui posait beaucoup de questions et réciproquement, je posais beaucoup de questions.
Pardonnez-moi, Hubert, mais qu'est-ce que. Enfin, je ne vous minimise pas, mais qu'est-ce qu'un homme de sa stature avait à demander à un jeune homme de 18-19 ans ?
Alors, la première chose qui l'avait intéressé, c'est que je lui dis, au départ, quand il a accepté de me rencontrer, je lui dis, pourquoi vous acceptez ? Il me dit, outre le fait que je sois écrivain, je suis aussi un grand reporter. Et en tant que grand reporter, je suis quelqu'un de très curieux. Donc, ce qui m'intéresse là tout de suite, c'est savoir qui est ce jeune homme. Qui a lu presque tous mes livres et qui sait en parler. Voilà.
Vous êtes parti en voyage avec lui, vous a emmené à New York, entre autres, je crois.
Alors, New York, c'était le premier voyage et c'était pour fêter mes 17 ans.
C'est incroyable.
Ouais.
Vos parents pensaient quoi de ça ?
Que du bien.
Mm-hmm.
Ouais. Et donc, 15 jours tous les deux à New York.
Parce que Kessel, rappelons-le, lui-même, sans faire de la psychanalyse de café du commerce, n'a pas d'enfant.
Ah non, n'a pas voulu, surtout.
C'est un choix.
Ouais, c'est un choix.
Il pensait qu'il n'aurait pas le temps de s'en occuper avec sa vie de bourlingueur.
Et un jour, quelqu'un, au cours d'un dîner, disant « Ah, c'est toi le fils de Jeff ?»
À vous ?
Ouais. Il dit « Je ne suis pas son fils. Hein. » Il me dit « Fils spirituel ?» Je lui dis « Non. Fils adoptif ?» Je lui dis « Non plus. » Il me dit « T'es quoi alors ?» Il dit « On est copains. » C'est déjà énorme.
C'est déjà énorme.
Et à la fin de ce dîner, on partait dans un taxi pour rentrer chez lui, rue Quentin-Bochard. Et là, il me dit « C'est bien ce que tu disais à l'autre baltringue. »
Encore un petit mot de Kessel après la guerre, où il évoque la résistance avec des termes très touchants, je trouve.
Là, vraiment, ayant connu souvent et beaucoup la peur, c'est un des moments de ma vie que je regrette le plus. Parce que c'était même plus de l'amitié, c'était de la fraternité. Toutes les classes mêlées, tous les dangers partagés. Enfin, vraiment, on a vécu là. Hein. Et pour ceux qui ont eu la chance d'en sortir indemne, c'est vraiment un temps privilégié.
Ce n'est pas la première fois que j'entends dire ça, mais quand c'est dit par quelqu'un de son envergure, ça prend plus de poids. C'est que malgré la tragédie de cette époque-là, les gens qui l'ont vécu l'évoquent parfois comme un moment exaltant de leur existence. La souffrance est presque oubliée.
Ah bah oui, il y avait ça, bien sûr, bien sûr. Puis ils se considéraient déjà comme des vainqueurs.
Bien sûr.
Ils savaient qu'ils n'allaient pas perdre la guerre, ils le savaient.
Oui, mais ils savaient qu'au prix de, hélas, beaucoup de vies perdues.
Au prix de beaucoup de sacrifices, c'est une guerre. Hein. Puis c'est une guerre violente quand même.
On parlait de Romain Gary tout à l'heure, qui a vécu aussi la guerre différemment. Il est plus jeune, Gary, donc ça compte. C'est en 40, lui peut combattre. D'ailleurs, il est un pilote, il est aviateur.
Ouais.
Et le groupe Lorraine, il participe au bombardement sur l'Allemagne, qui d'ailleurs parfois le met mal à l'aise. Mais il y a une vraie proximité. Ils ont 15 ans d'écart, je crois, en gros. Et il y a une vraie proximité entre ces deux hommes.
Alors, Gary est né en 14.
C'est ça, donc ça fait 15-16 ans.
Ça fait à peu près ça. Mais ils étaient très proches.
Originaux russes, tous les deux.
Alors oui, à peu près. Parce que Gary était plutôt lituanien. Mais le père, Samuel Kessel, était lituanien. Sa mère était russe.
France, c'était son pays à fond, 100%.
Ah oui, complètement, oui. Oui, il était même très patriote.
Oui.
Très vite, très rapidement. Déjà, la Première Guerre mondiale, quand il s'engage pour faire la guerre, il devient aviateur. Il est décoré de la Croix de Guerre.
C'est ça, à 19 ans.
Oui, c'est ça. Donc, il est... Bien sûr qu'il a une proximité énorme avec ce pays.
Savez-vous, alors je ne vais peut-être pas vous l'apprendre, mais qu'il y a une promotion de l'école de l'air là, de l'année dernière, 2024, qui s'appelle Lieutenant Joseph Kessel.
Ah non.
C'est beau ça. Je suis content de vous apprendre un truc sur Kessel, ça n'est pas très souvent, mais c'est pour dire que sa mémoire est honorée à la fois dans les milieux littéraires, c'est bien sûr, c'est essentiel, mais aussi dans les milieux de l'aviation. C'est lui, c'est pas l'auteur, c'est le lieutenant Kessel qu'on...
Mais l'aviation était sa deuxième passion.
La première étant ?
Il y a eu le patriotisme, l'écriture, le reportage, mais l'aviation, le milieu de l'aviation était quelque chose de très important pour lui, puisqu'il était très proche du milieu de l'aéropostale.
Saint-Exupéry, Mermoz.
Mermoz surtout.
Est-ce que Mermoz n'est pas peut-être le livre, Mermoz n'est pas un de ses tout meilleurs, la biographie de Mermoz.
C'est un très bon en tout cas.
C'est formidable.
Alors moi, la première fois que je commence à lire ce livre, c'était chez lui. Et je lui dis, t'as vu ce que je suis en train de lire ? Il dit, j'ai vu. Ça te plaît ? Je dis, oui, enfin, j'en suis à 20-30 pages, quoi. Puis à un moment donné, je dis, Jeff, on peut parler ou pas ? Il dit, bien sûr. Et il me dit, dis-moi, vers Mermoz, il est mort en 36. En effet. Et je dis, s'il n'était pas mort en 36, il me dit, t'as quelque chose à dire, mon garçon, alors développe.
Qu'est-ce que vous voulez, dire que Mermoz était un homme plutôt engagé à droite, c'est ça que vous laissez entendre ?
Déjà ça, ou bien sûr, il était au croix de feu.
Mm-hmm. Bon. Alors, quel était le sens de votre question ?
La question, savoir qu'est-ce qu'il aurait fait s'il avait survécu. Il me dit, mon garçon, nous avons déjà eu cette conversation. Je dis, ah bon ? Quand ça ? Il dit, pas avec Mermoz, mais avec le compagnon de Mermoz, le colonel de la Roque. Ouais. Ah, je dis, oui, t'as raison. Et je dis, il a fait quoi de la Roque ? Je dis, résistant de la première heure.
Et arrêté par les Allemands, déporté, il me semble.
Et décoré par De Gaulle en 1946.
C'est vrai.
Et je lui dis, moi, j'aime à penser, il me dit, j'aime à penser que Mermoz aurait fait la même chose. Ah, je dis, ça me va.
Le livre est absolument remarquable. Ceux qui n'ont pas lu encore un Kessel, peut-être un des deux ou trois à lire, c'est celui-ci. La biographie de Mermoz, faite par un
Il a mis beaucoup de cœur à faire ce livre parce que c'était quand même son grand copain.
Bien sûr.
Ils étaient très proches.
Oui.
Donc, Mermoz.
L'archange, comme il l'appelait.
L'archange, ouais.
Nous écoutions tout à l'heure Alexandre Foulon, qui est un des deux auteurs de la pièce Le Chant des Lions, qui parle de Kessel et Druon à Londres en train d'écrire Le Chant des Partisans. On a beaucoup parlé de Germaine Sablon, cette femme qui m'a l'air assez remarquable. Il m'a semblé légitime de l'entendre un petit peu, Germaine Sablon.
Tant que l'amour vaudra que l'on soit ivre, tant que mes cheveux boucleront. Moi, mes amis, je vis à vivre et fais jouer tous les violons. Ne verrez jamais personne au monde qui sache boire autant que moi. Je ne connais personne au monde qui sache rire comme toi. Si mon chemin s'amuse quand le tien va tout droit, ou c'est tant pis pour moi, ou c'est tant pis pour toi, ou c'est tant pis, ou c'est tant mieux, mais tant pis pour nous deux. Tu ne verras jamais personne au monde qui sache t'aimer mieux que moi. Je ne connais personne au monde qui sache rire comme toi. Et si demain tu m'aimes, eh bien tant pis pour moi. Mais si c'est moi qui t'aime, alors tant pis pour toi. Ou c'est tant pis, ou c'est tant mieux, mais tant pis pour nous deux. Vous ne verrez jamais personne au monde qui sache vivre mieux que moi. Je ne connais personne au monde qui sache rire comme toi. Et si un jour tu meurs, eh bien tant pis pour moi. Mais si c'est moi qui meurs, alors tant mieux pour toi. Ou c'est tant pis, ou c'est tant mieux, mais tant mieux pour nous deux. Vous ne verrez jamais personne au monde qui s'amuse aussi bien que moi. Je ne connais personne au monde qui sache rire comme toi. Non, non, jamais, jamais personne au monde ne saura boire autant que moi. Et plus jamais.
personne au monde ne saura pleurer comme
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Merci d'avance. Nous écoutions juste avant Germaine Sablon. Pourquoi? Car si vous arrivez maintenant dans l'émission, sachez qu'il faut arrêter toutes affaires cessantes, tout. Il faut parler de Joseph Kessel avec nous pour le faire. Hubert Boucara, qui est son ami, qu'il a rencontré alors qu'il avait 16 ans et Kessel plus de 70, et qui a passé une dizaine d'années de compagnonnage très proche. Et comme je l'ai dit une fois ou deux déjà, nous sommes tous très jaloux de cette chance qui a été la vôtre, de commencer votre existence de jeune adulte avec des personnages comme ça. Parce que j'imagine que Kessel vous présentait ses amis, qui étaient tous assez étonnants aussi.
Alors oui, il y avait une ribambelle de personnages que j'ai rencontrés grâce à lui. Avec qui je suis devenu, pour certains, un peu copain.
Quelques exemples, peut-être, pour qu'on...
Ben, Romain Gary.
Ah, vous l'avez connu aussi, Gary?
Ouais, Gary. Mais alors, il y avait un phénomène génial. C'est qu'il y avait, d'un côté, il y avait l'univers de Kessel, ce qu'on appelait le cercle kesselien. Et à côté, il y avait un autre univers, c'était celui de Brassens. Et entre les deux, il y avait un lien. C'était un personnage que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. C'est Louis Nousserrat.
Oui, un écrivain niçois.
Un écrivain niçois, mais aussi parisien, parce qu'il habitait les deux. Et Louis faisait le lien entre les deux univers. Donc on passait d'un univers à l'autre, donc il y avait...
Attendez, vous êtes en train de nous dire que Kessel connaissait Brassens?
Ouais.
Mais c'est fou ça, je l'ignorais complètement.
Alors Brassens, Boudard, René Fallet...
Mais alors Brassens qui incarne une espèce de liberté un peu anarchiste en quelque sorte, alors que Kessel finalement a été un patriote combattant, c'est pas tout à fait la même vision du monde.
Ouais, mais il s'appréciait.
Ben, j'imagine. Ils sont tous des gens très chaleureux en tout cas.
Alors chaleureux, bienveillants, et puis il y avait aussi un autre que j'aimais bien, mais il était un peu insupportable parce qu'il était bourré tout le temps, c'est Blondin.
Ah bien sûr, Antoine Blondin, hélas.
Antoine Blondin. Oui. Donc tous ces gens, il y avait aussi une autre personne... C'était Barbara, qui était très proche de Brassens.
Mais vous aviez 18 ans, 17, 18, 19, 20. Vous côtoyez des gens passionnants d'un très haut niveau. Est-ce que vous en aviez alors conscience de ce privilège?
Alors oui, mais je trouvais ça presque normal.
Au bout d'un moment, oui.
Ouais, je trouvais ça. Parfois, je me disais, tiens, pourquoi je suis avec tous ces gens?
Parce que vous étiez le seul de votre âge, au milieu de tous ces grands,
alors,
largement
adultes. J'étais un peu le candide de l'histoire.
Bien sûr.
Et puis, j'étais un peu aussi le protégé. Alors, le truc commun qu'ils avaient, tous ces gens, c'était la bienveillance. Gentil.
En termes de caractère, en termes de vie, c'est des créateurs.
Oui, des créateurs, mais en termes de vie, c'est des gens bienveillants, accueillants, généreux, altruistes.
Mais pardonnez-moi, je vous pose une question un peu intime, vous n'êtes pas forcé de m'y répondre, enfin, faites comme vous le souhaitez. Côtoyer des gens d'un tel niveau, est-ce que ce n'est pas à la fois un peu exaltant, mais aussi un peu écrasant? Est-ce qu'on ne se dit pas... Qu'est-ce que je vais pouvoir faire à la hauteur de ces gens-là?
Non, parce que j'y pensais même pas.
C'est ça.
Et puis je participais. Quand on était autour d'une table, c'était souvent le cas, des grands dîners, des grandes tables d'une quinzaine de mètres, avec plein de monde autour.
C'est très masculin l'univers que vous décrivez, non? Vous parlez que d'hommes.
Il y avait des femmes. Barbara.
Oui, c'est vrai, pardon.
Mireille d'Arc.
Ouais. Qu'est-ce qu'elle faisait là?
Bah, elle était amie avec plein de ces personnes.
D'accord.
Ouais. Et puis les femmes des uns et des autres.
Mmh. Vous avez connu donc vous la dernière femme de Jeff?
Alors Michel, ouais.
C'est la seule que vous avez connue.
Alors qui était dure à vivre quand même.
Je crois.
Ouais. Parce que bon, elle était très alcoolisée et puis elle lui en voulait. D'être trop célèbre. Parfois elle l'insultait par rapport à ses origines.
Juive?
Ouais.
Oui, publiquement je crois en plus. Vous avez été témoin de scènes...
Chez lui.
C'est ça.
Chez lui.
Ouais. Comment est-ce qu'un homme de son charisme supportait ça?
Ça se terminait tout le temps, dire mon garçon, et si on y allait?
Et vous partiez du coup?
Et on partait.
Ouais. Kessel n'est pas qu'un octambule, hein, je tiens à le dire, on n'est pas qu'un alcoolique, loin de là, on parle de ça de manière festive, mais c'est aussi un homme très courageux. Et donc nous l'avons évoqué tout à l'heure avec Alexandre Foulon, il faudrait quand même l'entendre maintenant, ce fameux chant qui est devenu le chant de la résistance française. Donc c'est une musique russe traditionnelle, et c'est les paroles de Kessel et Druon, c'est le chant des partisans.
Entends-tu le cri noir
des corbeaux sur nos plaines. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, à vos armes! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des colliers, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oui, les tueurs, à la balle et au couteau, très vite. Oui, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. Nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères, la haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au crédit y font des rêves. Si nous battu, nous marche et nous tue, nous crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute.
Le chant des partisans, Joseph Kessel et son neveu Maurice Druon en sont les auteurs. Ils l'ont composé pratiquement à la demande du général de Gaulle pendant la guerre, alors qu'ils étaient à Londres. Nous parlons de Kessel, aujourd'hui dans les neiges du Kilimandjaro. Un journaliste, un écrivain, un aviateur, un homme d'action, un romancier, quelqu'un qui a une vie absolument trépidante et impressionnante. Pour en parler avec nous, Hubert Boukara, qui a eu la chance, qui est libraire. Et votre librairie porte le nom du manuscrit que Kessel vous a donné, « La Rose de Java ». Vous tenez cette librairie depuis longtemps, mais je crois, hélas, enfin, je peux dire ça, que vous allez bientôt arrêter.
Ouais, j'arrête, c'est fini.
Mais ce n'est pas, vous n'êtes pas fâché.
Non, non, je ne suis pas fâché, je ne fâche avec personne.
Non, bien sûr.
Mais non, j'arrête parce que j'ai l'âge d'arrêter. Et puis, ça fait 38 ans que je fais ce métier. Mmh. Ça y est, quoi.
Vous avez fait tout à fait autre chose avant, je crois, en plus.
Alors, j'ai fait des choses très différentes qui n'ont rien à voir. Que j'ai été ingénieur en électronique.
Effectivement, rien à voir.
Mais après, j'avais un rêve de gosse, c'était un jour de devenir libraire, ce que j'ai réalisé.
Est-ce que votre amitié, votre proximité avec Kessel joue un rôle important dans le fait que vous essayiez de vivre parmi les livres, finalement?
Non, parce que je m'intéressais aux livres avant, déjà.
C'est ça, oui. Déjà. C'est pour ça que vous vous intéressez à Kessel.
Ouais. Je me suis intéressé à lui, oui, par le livre. Mais moi, j'ai été un lecteur précoce. J'ai commencé très tôt à lire. Et j'ai lu beaucoup, beaucoup trop même.
Pourquoi trop? Est-ce qu'on peut trop lire?
Oui, parce que là, je ne le fais plus maintenant parce que je me fatigue un peu. Mais j'étais arrivé à faire du 400 pages jour.
Ah oui, c'est beaucoup.
Ouais.
Ce jeune homme de 18-19 ans que vous étiez quand il fréquentait assidûment Joseph Kessel, est-ce que Kessel vous parlait parfois de votre avenir? Est-ce qu'il vous lisait, vous conseillait sur la vie que vous devriez mener?
Ouais.
Et quel était son conseil?
À l'époque, moi, je ne voulais pas devenir ingénieur. Et il me dit, pourquoi tu ne veux pas devenir ingénieur? Je dis, parce que ça ne m'intéresse pas. Il me dit, tu veux faire quoi? Je dis, tu sais bien, je veux devenir libraire. Il me dit, bon, le mieux, ça serait que tu deviennes ingénieur. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que pendant ce temps-là, tu ne seras pas en conflit avec ton père. Et après, tu feras ce que tu voudras.
Voilà. Vous avez suivi son conseil, finalement?
J'ai suivi le conseil.
Donc, vous dites 38 ans, ça veut dire, si je calcule bien, que oui, donc Kessel ne vous a pas connu avec cette ébraille.
Non.
Dommage.
Non. Quand j'ai créé La Rose de Java, j'ai fait une photo, j'ai imprimé la photo et je suis allé au cimetière à côté à Montparnasse et j'ai mis la photo sur le marbre. Voilà, sur le marbre. Voilà.
Au passage, on peut dire un mot, on anticipe un peu, mais c'est pas grave. Est-ce que je me trompe? Est-ce que sa mort si rapide, à l'évrisme, je pense en un instant, chez lui, tranquillement, n'est pas une belle mort pour quelqu'un comme lui? C'est magnifique.
C'est plus belle.
C'est ça.
Je pense.
Il ne s'est pas dégradé.
Il était devant la télé parce qu'il avait un rituel, c'est qu'il fallait qu'il écoute le journal, le JT de 20h à la télé. Et il était sur son fauteuil, c'était le sien et personne d'autre, un gros fauteuil et des accoudoirs en tête de lion. Forcément, c'est le sien. Et il s'est assoupi et il ne s'est pas réveillé.
Vous n'étiez pas là?
Si, on était dans le jardin.
Vous étiez là physiquement le jour de sa disparition?
Pas que moi.
On était, non, on vous étiez là.
On était plusieurs. On était dans, c'était au mois de juillet, c'était l'été, il faisait beau. On était dans le jardin, on jouait aux cartes. Et puis, à un moment donné, quelqu'un arrive, il dit « Bon, les gars, faudrait vous calmer un peu. » Et moi, en plaisantant, je dis « Pourquoi il y a une guerre ?» Il dit « Il n'y a pas une guerre, mais il y a Jeff qui vient de nous quitter. »
Non, je ne savais pas que vous étiez là.
Alors, ça jette un froid.
Oh, j'imagine, quelle scène incroyable.
Donc, il s'est endormi, il s'est assoupi, et il ne s'est pas réveillé, il avait la cigarette qui continuait à se consumer.
Un homme d'action comme lui ne pouvait pas mourir en se dégradant, il est mort en un éclair. Comme le général de Gaulle, exactement dans les mêmes conditions, absolument.
Mais je pense que c'est la plus belle mort.
Bien sûr.
Pas de maladie, pas de souffrance, pas d'hôpital, pas rien quoi. Mm-hmm. Il s'endort.
Il était encore en forme quand il avait 80 ans.
Sur la fin, il était fatigué, ouais. Il était fatigué. Uh-huh. Et puis il avait, curieusement, je ne sais pas si c'est un truc normal, mais on avait l'impression qu'il avait rapetissé un peu.
Ah bon?
Ouais.
Bon, devait... enfin, à l'âge, comme pour tout le monde.
Mais il avait 81 ans. Alors,
son dernier livre, c'est Les Temps Sauvages.
Les Temps Sauvages.
Qui est un livre extraordinaire que je recommande
c'est,
aussi.
Au départ, il le présente comme quelque chose d'inédit, comme quelque chose qu'il n'avait jamais raconté. Et à l'époque, quand on avait fêté l'événement de la sortie du livre, je lui ai dit, mais Jeff, pourquoi tu dis que c'est un inédit? Il me dit, parce que c'est un inédit, c'est un vrai. Mais non, tu as déjà raconté cette histoire.
De quelle manière?
Mais je t'écoute. Bah, je dis en 1927 et 1928, t'écris un livre qui s'appelle Dame de Californie, et juste après, t'écris un livre qui s'appelle Nuit de Sibérie. C'est exactement ça.
Ce livre, Les Temps Sauvages, raconte comment Kessel, à la fin de la guerre, est envoyé en Russie, mais en faisant le tour, en traçant l'Amérique, et quand il arrive en Russie pour combattre éventuellement, la guerre est finie, il n'y a plus à combattre, et il passe des mois à Vladivostok dans une atmosphère de délire complet.
Alors ça, c'est la partie de Nuit de Sibérie.
C'est ça. C'est la partie forte.
Oui, et après, au départ, il arrive aux États-Unis, il embarque sur un bateau américain avec des Marines, et c'est là où il va découvrir le jeu, déjà. Ça va. C'était pas une bonne idée, hein, parce qu'il a quand même perdu beaucoup.
Il a perdu beaucoup. Mais en tout cas, il en produit. Moi, j'adore ce livre, vraiment. Cette vie échevelée, cette boîte de nuit gigantesque,
l'aquarium,
les Cosaques, les trains blindés, les légionnaires tchèques,
et puis les princesses qui deviennent entraîneuses, la Taman Semenov.
Ouais. On dirait un peu le livre de Corto Maltese, Maltese en Sibérie. Il faut absolument lire ça, Les Temps Sauvages.
Ils arrivent aux États-Unis, ils sont acclamés comme des héros à New York, et ils continuent leur périple pour aller en Californie. D'où le titre du livre « Dame de Californie » parce que toutes les jolies femmes qui leur tombent dans les bras.
Oh, ouais. Vraiment?
Ouais, vraiment.
Vous parliez d'amitié, vous parliez d'aviation. Synthétisons les deux en parlant de Saint-Ex.
J'ai rencontré pour la première fois Saint-Ex, pour ainsi dire, en dehors de sa présence. C'était en 1929 et je faisais le premier voyage qui est fait un passager sur la ligne de l'aéropostale au temps héroïque où les appareils n'avaient qu'un moteur, où il n'y avait pas de radio à bord, et où tout était aventure. Une des escales était Cap Juby, dans le Rio de Oro. Et c'est là que, pour la première fois, j'ai entendu le nom de Saint-Ex, parce qu'il avait été le chef de cette escale pendant 18 mois, et il venait de quitter l'endroit pour aller en Argentine, où son nom aussi est resté célèbre, avant même qu'il ait écrit une ligne, célèbre comme aviateur.
Et ce jour-là, à Cap Juby, que vous a-t-on dit de Saint-Ex?
Eh bien, on parlait de lui comme d'un être exceptionnel, rêveur, grand pilote, mais en même temps grand silencieux, grand méditatif. Il vivait dans une gandoura mort, il laissait pousser sa barbe, il parlait l'arabe avec les chefs, buvait le thé avec eux sous la tente, allait se promener seul dans le désert, à pied ou en avion. Et surtout, la mémoire était restée d'un fait extraordinaire qu'il avait accompli, un dépannage d'un avion de la ligne qui s'était posé à une cinquantaine de kilomètres de Cap Juby, et où il avait imaginé d'atteler les chameaux pour ramener l'avion, ce qui, paraît-il, était une chose incroyable, même pour les morts, car le chameau n'a jamais été un animal de trait.
Le chameau n'est pas un animal de trait. Encore une belle anecdote, qui n'est pas la sienne, mais il la raconte très bien. Saint-Ex, Mermoz, des vrais amis. Et là encore, il le dit, il est le premier à voler comme passager.
Alors là, 1929, c'est ce qu'il disait. Ça sera donc l'année de publication d'un livre là-dessus, c'est Vent de sable.
C'est ça.
Ça paraîtra en 1929.
Un reportage, un livre. Alors, et l'amitié en plus.
C'est un récit d'aventure. C'est donc Vent de sable où il parle de ses aviateurs et même du premier, le tout premier, qui est moins connu que Saint-Ex ou Mermoz, c'est Émile l'Écrivain.
Émile l'Écrivain, oui.
Écrivain, l'écrivain sans apostrophe, en un seul mot. Que tout le monde appelait Mimile, évidemment.
Les héros de l'aéropostale, Rennes, Serres, tous ces pilotes-là. Il y en a un qui sert de modèle, je crois, au personnage de Yvan Vivant.
Alors oui.
Dans un autre livre qui s'appelle Les Enfants de la Chance.
Les Enfants de la Chance.
Voilà, on parle un peu entre spécialistes, donc il faut essayer d'ouvrir au public qui ne connaît pas. On parle de Joseph Kessel, il faut lire Kessel.
Quand j'ai lu ce livre pour la première fois, je dis, disons que tu as quand même un drôle de nom pour ton personnage. Il dit, quel personnage ? Yvan Vivant. Il me dit, c'est un personnage de roman, mon garçon. Je dis, non, pas du tout. Pourquoi tu dis un truc pareil ? C'est pas un personnage de roman. Parce que, bon, Yvan Vivant, à Casa, avec son avion, il fait une espèce de pirouette pour épater une jeune femme, ce qui lui vaut de faire quelques semaines de prison.
Un peu de prison. Ouais.
Voilà. Mais Marcel Rennes l'a fait.
Un vrai pilote de l'aéropostale. Un
vrai.
Absolument.
Qui est mort pendant la guerre.
Ah ben, les grands auteurs prennent, se nourrissent de la réalité là, pour leur fiction.
Mais, il me dit, je t'écoute, ben, je dis Marcel Rennes. Il dit quoi, Marcel Rennes ? Je dis, Marcel Rennes a fait ça, il a fait ce truc à Casa. Il dit, mais comment connais-tu Marcel Rennes, toi ? Je dis, tu sais que je dis beaucoup.
Vous l'avez piégé. Il a été aussi un reporter, il a suivi des grands procès, Nuremberg, le procès de Pétain aussi, et puis le procès Eichmann en Israël en 62. Voici ce qu'il dit de la vision physique d'Eichmann.
Cette vénération de l'ordre, des ordres, des papiers, des instructions, enfin, toute la bureaucratie était pour lui vraiment quelque chose de divin. Et il s'entendait reprocher des choses vraiment qu'on ne peut presque pas répéter tellement. Il restait froid. Une seule fois, il a rougi et il s'est senti en faute, c'est le président lui a posé une question et il a oublié de se lever. Et le président a dit, levez-vous s'il vous plaît. Cet homme impassible, blême, est devenu rouge, a dit, Entschuldigt, je vous demande pardon. Et c'était le seul moment où il s'est senti en faute de tout le procès.
Voilà, Eichmann, le coupable de la solution finale, qui ne sont pas fautifs des meurtres de masse, mais qui sont fautifs d'avoir été impolis. L'anecdote est terrible en un sens.
Ouais. Alors en effet, il a assisté à tous les grands procès de la prière. Alors Eichmann en 62...
Le procès Pétain, je ne suis pas fou, il y était.
Procès Pétain, et Nuremberg, et même le procès de Maurras.
À lire à ce sujet, Témoins parmi les hommes, qui rassemble aussi beaucoup de reportages.
Voilà. Donc il y a un des volumes qui parle de ça, des procès, c'est l'heure des châtiments.
Un des 88 livres, j'ai appris le chiffre aujourd'hui grâce à vous, Hubert Boukara, 88 livres.
Alors moi, je les ai tous lus.
Est-ce que vous l'avez vu en train d'écrire physiquement ?
Ouais.
Et est-ce que, alors je vous pose une question intime là encore, est-ce qu'il est arrivé d'assister au processus de création et vous dites tiens, aujourd'hui j'ai fait 3 pages,
non,
voilà,
je regardais
comment ça se passait
à quelques mètres.
Il ne faisait pas lire, il ne faisait pas lire ce qu'il écrivait.
Non, mais il était à sa table de travail, c'était pas une grande table, c'était vraiment une petite table contre un mur avec plein de gris-gris qui étaient accrochés au mur. Il était très fétichiste, il gardait tout.
Est-ce qu'il était très concentré, des heures et des heures sans bouger de la table ? Est-ce qu'il avait un rythme de travail staccanoviste ou ça dépendait des moments ?
Quand il commençait à écrire, c'était souvent très tôt le matin. Mais il écrivait d'un seul jet. Il ne revenait pas dessus.
Ah oui ?
Ouais. Il écrivait d'un seul jet. Et donc,
ça allait assez vite. Vous disiez 48 heures pour le Lion, je n'arrive pas toujours pas à le croire.
Si, c'est
vous avez fabulé un peu là.
Non, sans blague. Il n'a pas mis plus. Même Gallimard...
Vous me direz la vérité après, je ne vous crois pas.
Sans blague, hein. Si, si. Mais après, il pouvait écrire comme ça très vite des articles. Quand il faisait des articles, il écrivait en un rien de temps.
Durant la période de votre amitié, je fais appel à votre mémoire, quels livres sont sortis à ce moment-là, que vous l'auriez vu écrire en quelque sorte ?
Ce que j'aurais pu voir, c'était Des Hommes.
Oui.
Les Cavaliers.
Et Les Cavaliers, bien sûr. Ouais. C'est devenu un film avec Omar Sharif. Ça se passe en Afghanistan. Et puis Les Temps Sauvages, le fameux Temps Sauvage.
Et Les Temps Sauvages, c'est le dernier. Voilà.
Vous aviez l'impression de côtoyer un ami, point final, ou un grand créateur qui vous impressionnait ?
Non, c'était un copain, ouais. C'était un ami, un copain.
Ça ne vous impressionnait pas plus que s'il avait été plombier ?
Non. Non, puis on était devenus très proches. On parlait très librement, on posait des questions. On se voyait presque tous les jours.
Mais mon cher Hubert, ça ne vous impressionnait pas, et pourtant il est devenu académicien français.
J'estime énormément l'Académie française, et je pense que c'est un honneur que d'y appartenir. Mais couronnement veut dire
fin de carrière, fin de course. Or, j'espère bien écrire encore autant que je vivrai et ne pas changer de style, ni de style d'écrivain, ni de style dans la vie, parce que je suis académicien.
Et il n'a effectivement pas changé.
Non.
Quel personnage à l'Académie française, c'est magnifique. Ouais. 62 à l'Académie française, sa fin de vie 79, donc il a continué jusqu'au bout, effectivement, comme il l'espérait à ce moment-là.
Absolument. Mais après l'Académie, on s'est intéressé, mais de loin, hein, quand même.
Je crois qu'il est allé assez peu, effectivement.
Il n'y allait pas.
Oui, c'est plus le symbole.
Bon, il est allé le jour de... Quand il a été reçu.
L'intronisation, oui.
L'intronisation. Alors, il est allé pour Maurice Druon, évidemment.
Son neveu, qui est devenu secrétaire de l'Académie française par la suite.
Alors, qui n'est pas resté.
Bah, qui a eu le job, déjà, quand même. Ah oui, Tous les deux dans la famille.
Normalement, il était secrétaire perpétuel. Perpétuel, ça veut dire jusqu'au bout. Mm-hmm. Mais ça n'a pas été le cas.
Bon, pour des raisons sur lesquelles on ne reviendra pas aujourd'hui. Voilà, voilà. C'est son neveu, c'est la chair de sa chair, il l'a beaucoup aidé tout au long de sa vie. Même si Druon est quand même, semble-t-il, un moins grand écrivain que Kessel.
Il n'était pas très reconnaissant, surtout.
Vous ne l'aimez pas beaucoup, j'ai l'impression.
Pas tellement. Parce qu'il était très... Il y a un mot qui correspond bien, c'est très court, c'est, il était fat.
Vous trouvez ?
Ouais. Très sûr de lui, très imbu de lui-même.
Les Rois Maudits, ça reste un beau travail.
Ah oui, oui, et puis même Les Grandes Familles, c'est bien.
Également.
Oui, c'est très bien. Je ne mets pas en cause son écriture, au contraire, non. Les Rois Maudits, c'est un travail collectif, il l'a toujours dit. Hein.
Et ces deux hommes formidables, surtout l'oncle, tous les deux n'ont pas eu d'enfants, c'est étrange. Et la famille s'arrête là. Leur sang kesselien ne coule plus.
Non, c'est fini. Mm-hmm. C'est terminé.
Il reste leurs livres.
Il reste les livres. Bah, les livres, c'est quand même... Ça va rester.
Il y a moins de gens qui font de bons livres que de gens qui font des enfants.
Ouais. Mais non, ils n'ont pas eu d'enfants. Lui, il ne voulait pas, de toute façon. Voilà. Il voulait...
Kessel, vous l'avez dit. Oui.
Il ne voulait pas.
Il aimait les femmes beaucoup. Et aucune d'elles n'a réussi. Et vous pensez que certaines femmes lui ont demandé d'avoir des enfants ?
Je ne suis pas sûr. Mm-hmm. Peut-être sa deuxième épouse, qui était Katia. Moi, j'avais toujours dit que c'était celle avec qui il aurait dû finir sa vie. Elle lui correspondait très bien.
Hélas, on se trompe parfois.
Voilà.
Même donc, les plus grands. Vous disiez en début d'émission qu'il à l'âge de 20 ans, il avait déjà fait plus que le tour du monde, peut-être même deux fois.
Deux fois, ouais.
Écoutons-le à la fin de sa vie, vraiment les dernières années, en train de dire ce qui le séduit dans le voyage.
Voyez-vous, dans un voyage, bien sûr, je suis ému par... Les grands paysages, les paysages farouches, sauvages ou magnifiques, j'y suis infiniment sensible. Mais ce que je cherche surtout, ce sont les gens. Et parmi les gens, ceux que j'aime le mieux, ceux qui me touchent le plus, ceux avec lesquels je me sens le plus d'accord, ce sont les gens simples, des gens pauvres, sans qu'ils soient misérables ou affamés, mais des gens qui ont le sens de la vie parce qu'elle est plus difficile pour eux et... qu'il y a en eux la violence, la passion, tous les éléments primitifs de l'homme dont nous nous éloignons de plus en plus et qui, à moi, me manquent terriblement.
C'est à plusieurs reprises, il parle de la violence. C'est quelque chose qui est en lui. Ce n'est pas la méchanceté gratuite, mais c'est l'impulsion très forte.
Elle est partout. Mmh. Dans les pays qu'il a visités d'Asie centrale, la violence est partout.
Bien sûr.
Évidemment. Hein. Mais il me disait... Moi, quand j'ai commencé à vouloir parcourir le monde, il me dit, quand tu veux aller quelque part, si le nom de la ville ou du lieu où tu veux aller ne te fait pas rêver, il ne faut pas y aller.
N'y va pas.
Voilà. Et donc, j'ai parcouru un peu la planète. Alors, on a eu une aventure à ce moment-là.
Ah, allez-y.
C'est, j'étais à Lima, à ma période Amérique centrale, Amérique du Sud, quand j'étais avec les Indiens, il est venu me rejoindre à Lima, on avait passé un mois ensemble.
Non, voilà. Formidable.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant un mois à Lima, tous les deux?
On s'est baladé.
C'est
vrai. Il me dit, tu sais, on ne va pas utiliser les autocars avec les poules et les cochons.
Et les petits chapeaux melons.
Ouais. Il dit, on va prendre un taxi. Oh, ben, je dis, c'est toi qui décides. Hein.
Vous êtes allé au Machu Picchu, évidemment, les choses comme ça.
Alors, Machu Picchu...
Vous avez marché dans les ruines du Machu Picchu, ouais, avec Kessel.
Et puis, un jour, il me dit, bon, on va prendre le taxi, puis on va aller vers le nord, on va aller en Équateur. Ah, ben, j'ai dit, d'accord. On est allé jusqu'à Quito, voilà, en Équateur. Et puis, une autre fois, j'ai dit, tu sais, j'aimerais bien qu'on prenne un taxi, puis qu'on aille en bas, on va juste à la frontière avec le Chili. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a à voir ? Il y a une ville qui s'appelle Arica, et c'est une ville indienne avec un marché indien qui est colossal. Il me dit, on y va. Donc on a visité, alors Machu Picchu, on ne pouvait pas y aller en voiture.
Il avait 70 ans quoi, à l'époque, hein, c'est ça ?
Ouais, ouais. Et Machu Picchu, on ne peut pas y aller en voiture. On ne peut pas le grimper, le truc.
Non.
Donc il y a un train à crémaillère. Bon, ça fonctionne, mais on n'est pas très rassuré. mais ça fonctionne.
C'est merveilleux, ces souvenirs. Ça doit nourrir votre vie encore maintenant, non ? Vous y pensez ?
Tout le temps. Alors bon, avec la librairie, avec la Rose de Java, c'est au quotidien.
Bien sûr.
Il y a des tas de personnes qui viennent pour que je leur parle de Jeff.
Bien sûr. Voilà. Et vous n'êtes jamais lassé de le faire ?
Non.
Tel que je vous vois aujourd'hui, je sens que
non.
Ça coule, c'est facile.
Non, non.
C'est un grand homme et c'est un ami surtout.
Oui, et puis c'est surtout des souvenirs que peu de gens pourraient avoir.
Ah bah, personne même. Ouais. Personne. Le jeune homme qui côtoie les grands, comme ça, j'adore. Et les amis que vous n'avez pas connus, évidemment, type Mermoz, Cocteau, Saint-Ex, et puis ceux que vous avez connus, comme Brassens. Du coup, ça m'a semblé symbolique. On va écouter une petite minute de la chanson phare de Brassens qui parle de l'amitié.
Non, ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. C'est fluctuat, nec mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie. Sur le ventre, ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile, ils l'avaient pas lu, mais ils s'aimaient toute voix de dehors, toute voix de dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteror, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, leur bras lançait des SOS, on aurait dit des sémaphores.
Les copains d'abord. Brassens, alors que nous parlions de Joseph Kessel, parce que j'ai appris, vous avez appris, grâce à Hubert Boccara, libraire qui tient la Rose de Java et ami proche de Kessel, que Kessel et Brassens se sont fréquentés. Vous avez passé des soirées avec eux chez Brassens, ça devait être merveilleux.
Oui, parce que Brassens habitait une grande maison au fin fond des Yvelines, qui était posée sur un parc absolument gigantesque, et il recevait ses amis.
Donc Kessel et du coup vous.
Voilà. On y a souvent, enfin plusieurs fois.
Donc vous avez vu Kessel chanter avec Brassens
Alors Kessel ne chantait pas.
Ah, il ne chantait pas.
Mais Brassens chantait pour nous. Et puis une amie proche de Brassens, c'était Barbara, Monique Cerf.
Elle jouait là aussi, vous avez
Alors, ça lui arrivait parfois de se mettre au piano, parce que chez Brassens, il y avait des instruments de musique un peu partout. Et elle se mettait au piano, elle chantait pour nous.
Merveilleux.
Voilà. Et un jour... J'étais tellement fasciné par cette personne. Un jour, je lui dis, vous savez quoi ? Je crois que je suis très, très amoureux de vous. elle a ri.
Quel début dans la vie. Mais dites-moi, Hubert, à la fois, c'est une chance. Et en même temps, c'est difficile de se maintenir à un tel sommet en ayant fréquenté des gens pareils à 20 ans.
Ouais, mais bon, on vit avec.
Bien sûr.
Je vis avec ça. Après, je continue à vivre avec eux au quotidien.
Grâce au livre ?
Grâce au livre. Et puis bon, à mes visites dans les cimetières.
Ah, vous faites ça ?
Ouais.
Il nous reste peu de temps, très peu de temps. Je vous demande un exercice difficile. Recommandez-moi 3 livres de Kessel. 3.
Ouais,
recommandez-nous.
L'armée des ombres.
Oui, sur la résistance.
Fortune carrée.
La corne de l'Afrique,
ouais.
Henri de Montfred.
Les cavaliers
de l'Afghanistan. Ouais. Le film aussi avec Omar Sharif. D'accord.
Après, bon, 3 livres, c'est réducteur. Moi, je vais très bien.
Il faut choisir.
La passante du sans-souci.
Ouais.
Belle de jour.
Ah, Belle de jour, Catherine Deneuve. Un bon film, là aussi.
Alors moi, j'aime pas trop le film. Mais
s'il y a Catherine Deneuve, c'est
ouais.
forcément bien.
Ouais.
Voilà.
Mais Buñuel n'a pas compris. Buñuel a fait une critique de la bourgeoisie, alors que Jeff a fait un livre sur la condition féminine.
Ah voilà, une belle phrase.
Ouais.
Nous avons parlé de Joseph Kessel avec Hubert Boukara, qui est libraire pour encore quelques semaines à La Rose de Java, nom d'un roman de Kessel. Pourquoi ce nom ? Parce que vous êtes le propriétaire du manuscrit du livre.
Il est chez moi.
Il vous l'a donné. Et dans votre rue, car cette librairie charmante se tient pour quelques semaines encore, rue Campagne Première, une rue dans laquelle il s'est passé bien des choses. Je crois que Rimbaud y a vécu.
Ouais.
Et il s'est tourné une scène marquante du cinéma français. C'est un petit clin d'œil pour vous.
C'est vraiment dégueulasse.
Belmondo, qui est allongé en train de mourir, et Gene Seberg.
Qu'est-ce qu'il a dit ?
Il a dit, vous êtes vraiment une dégueulasse.
Qu'est-ce que c'est, dégueulasse ?
Cette scène mythique du film de Godard à bout de souffle se tourne rue Campagne Première, tout près de votre librairie.
Alors, c'est plus que tout près, parce que cette scène se passe précisément dans l'immeuble qui est au-dessus de ma librairie.
Ce n'est pas que je veuille me tresser des couronnes, mais j'ai été bien inspiré alors avec cet extrait. Je ne suis pas mécontent de moi.
C'est exactement dans l'immeuble au-dessus.
Écoutez Hubert, merci vraiment de votre présence, des témoignages que vous seul pouvez donner sur Kessel. Nous sommes beaucoup à aimer Kessel. Je vous encourage à lire Kessel, soit les livres que vous avez recommandés, ceux que je recommande moi, qui sont bien aussi, comme Les Temps Sauvages ou Les Enfants de la Chance. Voilà, je rajoute mes deux. Il y en a 88, vous avez le choix. Vous pouvez venir en acheter quelques-uns encore, vite fait, quelques semaines chez Hubert Boukara à La Rose de Java. Lisez, 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 il faut lire. Et notamment Joseph Kessel. Merci beaucoup Hubert Boukara.
Bah, merci, merci de m'avoir reçu.
Et allez au théâtre aussi si vous voulez voir Comme des Lions. Pardon, Le Chant des Lions. Le Chant des Lions, ouais. Qui raconte Kessel et Druon à Londres en train d'écrire Le Chant des Partisans. Il y a aussi une autre pièce qui tourne sur Kessel que vous connaissez. Vous m'en avez parlé
Franck
vous-même.
Desmet.
Franck Desmet.
Ouais. Qui est très bien. Sa pièce, elle fonctionne très bien.
Il s'appelle
J'ai retrouvé la liberté à tout prix.
La liberté à tout prix. Voilà, ouais. Joseph Kessel est notre idole à tous. Merci infiniment. Les Neiges du Kilimandjaro, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir.
Vous venez d'entendre le libre journal des Neiges du Kilimandjaro, dirigé par Marc Bessou, diffusé en direct sur Radio Courtoisie samedi 7 mars 2026 de 18h à 19h30 et réalisé par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.